Weeks Morning Edition from NPR News.
That's it, he's on Peter House.
France Inter, le 18-20.
À quoi vont bien pouvoir ressembler ces JO qui démarrent dans 48 heures? Des JO claquemurés pour cause de crise sanitaire, des JO claquemurés aussi parce que la Chine se replie sur elle-même avec Xi Jinping. À quoi va ressembler la photo de famille des dirigeants présents, si ce n'est à une brochette d'alliés? Si l'image vue de l'extérieur est déjà ternie, quelle démonstration intérieure Xi Jinping est-il en train de faire? On y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est en Pologne, un an après l'interdiction de toute forme d'avortement. Vous verrez à quel point cette décision a plongé dans l'angoisse les femmes mais aussi les médecins. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Eugénie a trouvé un rapport au vitriol contre les policiers de Scotland Yard. Des Indiens aux USA à qui on donne des millions de dollars pour oublier qu'on les a anéantis aux opiacés. Et puis Bacchus, le dieu du vin qui nous revient d'Autriche. À 18h50, le cinéma en VO. Et Corinne Pellissier en Chine, lui aussi dans un documentaire sur l'hôpital le plus grand de Shanghai, le H6. À 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Fou. Ou comment les divergences entre Paris, Londres et Berlin sur l'Ukraine parlent de politiques intérieures et moins de géopolitique. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Carole Gomez.
Bonsoir.
Directrice de recherche à l'IRIS en géopolitique du sport. Et bonsoir Antoine Bombaz.
Bonsoir.
Chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, enseignant aussi à Sciences Po. Juste avant de dialoguer avec vous sur ces JO qui s'ouvrent dans 48 heures, je voudrais vous faire comprendre et faire comprendre surtout à ceux qui nous écoutent à quoi ressemble cette bulle dont on parle pour ces JO de Pékin. Y participer ou couvrir ces jeux, ça veut dire quoi? Juste avant d'aller se coucher, Jérôme Val du service des sports de France Inter nous a envoyé cette carte postale. Écoutez-le.
Eh bien écoutez, c'est vraiment le sentiment de débarquer dans un monde parallèle sur une autre planète. Alors, j'ai eu beau m'y préparer parce qu'on avait reçu pas mal d'instructions et de mises en garde avant le départ, c'est quand même un choc. Et c'est un choc d'abord visuel. Je descends de l'avion, la première chose que je vois, c'est un groupe de jeunes bénévoles de ces Jeux Olympiques, complètement habillés de la tête aux pieds d'une combinaison intégrale avec lunettes, impossible de distinguer ne serait-ce qu'un regard amical vis-à-vis de nous, ou en tout cas bienveillant. C'est un parcours dans cet aéroport complètement vide, où on doit passer de checkpoint en checkpoint, vérifier, scanner des QR codes, etc. Ça n'en finit jamais. Et puis arrive le temps du premier test, test PCR dans le nez et dans la gorge. Et je peux vous assurer que des tests PCR, j'en ai subi quelques dizaines depuis deux ans. Ça a été la fois où la tige a été enfoncée le plus profondément dans mon nez. Très, très désagréable. On sort de l'aéroport, je monte dans un bus. Quelques heures de transport, je débarque. Nos bagages sont désinfectés à leur tour, complètement trempés de produits désinfectants, et j'arrive dans l'hôtel. Ben là aussi, c'est carrément des litres et des litres de produits désinfectants sur le sol, partout, sur les poignets. À chaque fois que l'on passe, on nous met un chip-chip derrière nous, comme si finalement on était un peu enfin en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, des pestiférés, quoi. Et en tout cas, cette sensation est assez déroutante de vivre dans cette bulle où finalement on est coupé du monde, on n'a pas le droit d'avoir de contact avec l'extérieur, de se promener, de même de traverser une rue, parce que quand on veut aller sur un site qui est à quelques centaines de mètres, on nous demande de monter dans un bus, dans ces navettes qui sont organisées spécialement pour éviter de faire le trajet à pied. Voilà ce qu'on va vivre, ce que je vais vivre pendant trois semaines sur ces Jeux Olympiques qui sont vraiment coupés du monde réel et coupés de ce qui peut se passer ailleurs en Chine.
Pauvre Jérôme Val, on a senti le coton-tige très très haut dans son nez. Antoine Bombaz, c'est Courrier International qui a titré il n'y a pas si longtemps « Les Jeux de l'absurde ». Et au fond, quand on écoute Jérôme, on se dit « il y a tout ça, en plus il n'y a pas de neige, il n'y a pas de public, il n'y a pas de trêve diplomatique, comme d'habitude c'est le cas. On n'a jamais vu des JO pareils. Est-ce qu'on a déjà vu des JO pareils en fait ?»
Alors non, on n'en a jamais vu ainsi. Et c'est sûr que le protocole sanitaire, les questions environnementales viennent poser des questions sur le fait d'organiser même ces Jeux. Alors ces Jeux, évidemment, ils ne sont pas remis en question par Pékin pour une raison simple. Tokyo avait réussi à l'été 2020, à l'été 2021, à organiser les Jeux. Pékin veut faire mieux, c'est-à-dire les organiser en plein hiver, alors même que le variant Omicron se propage dans le monde entier, et démontrer que le système de gouvernance chinois, qui depuis deux ans met en avant la supériorité de son modèle et surtout une efficacité par rapport aux pays occidentaux, est capable de faire la même chose dans une compétition sportive. Alors, les conditions, encore une fois, d'organisation sont drastiques, mais in fine, les Chinois diront c'est un jeu et ce sont des jeux réussis.
Et d'ailleurs, si jamais il y avait un incident Covid, c'est tellement facile du coup de dire que l'incident s'est échappé de la bulle. En fait, cette réponse, elle est déjà prête, non ?
Alors, elle est potentiellement prête, mais surtout, ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a des dizaines d'étrangers qui arrivent à Pékin et qui sont de suite mis en quarantaine parce qu'ils arrivent positifs.
Pestiférés, disait
Jérôme Pestiférés, en tout cas, un vecteur potentiel d'une maladie désormais considérée comme étrangère et en réalité présentée comme étrangère depuis bien longtemps, puisque les différentes rumeurs ont été véhiculées par les diplomates chinois depuis déjà le printemps 2020.
Et d'ailleurs, on n'a aucune idée, on est d'accord, Antoine Bondaz, de la réelle situation sanitaire de la Chine. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de ça ou est-ce qu'on est sûr de se tromper, en fait ?
Alors, je pense qu'il y a des doutes sur le printemps, évidemment, 2020, la situation à Wuhan, dans le Hubei, les chiffres
bien
finaux,
sûr,
avec notamment les 5000 morts annoncés. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de flambée épidémique majeure en Chine, puisque les autorités politiques ont tout intérêt à les identifier au plus vite et à les contenir. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, lorsque vous avez quelques dizaines de cas dans des villes comme Xi'an, 10 millions d'habitants, vous avez un mécanisme de fermeture, entre guillemets, de la ville. L'objectif, c'est toujours le même, sacrifier une toute petite partie de la Chine pour que l'ensemble, l'immense majorité des Chinois, continuent de vivre normalement.
Carole Gomez, moi j'ai l'impression en regardant ces jeux qu'on a une espèce de photo inversée, de négatif des JO de 2008 en fait. On se souvient qu'il y avait déjà des controverses en 2008 sur le JO en Chine bien sûr, mais la Chine avait tout à y gagner en s'ouvrant. Il y avait même ce pari qui disait allons-y parce que ça accélérera l'ouverture de la Chine. Là on se dit que la Chine fait même plus semblant, qu'on n'est plus du tout dans la même chose et que surtout, non seulement elle n'a personne à séduire, mais surtout elle s'en fiche en fait de n'avoir personne à séduire.
Oui effectivement, alors je le verrais pas forcément comme le négatif, l'inverse de 2008, mais plutôt un étage supérieur dans la démarche et dans la démonstration de force. Il y a un élément qui est important, vous avez tout à fait raison de rappeler que les Jeux ont déjà été accueillis par Pékin en 2008, et c'est aussi un axe de fierté de la part de Pékin d'accueillir ces Jeux d'hiver. C'est la première fois dans l'histoire olympique qu'une même ville accueille des Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques et paralympiques d'été et d'hiver. Et donc c'est aussi une façon de démontrer. Il y a aussi un autre élément qui est celui de cette photo de famille dont vous parlez, qui va être extrêmement importante. On avait, au début du mois de décembre, eu un certain nombre de doutes sur la présence d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement à côté de Xi Jinping. En réalité, on se rend compte que les personnes qui sont absentes seront minoritaires, puisque là, on parle déjà de, évidemment, Vladimir Poutine, qui a été l'invité de marque de Xi Jinping. Rappelons par ailleurs que Vladimir Poutine était censé être interdit de Jeux Olympiques et Paralympiques au regard du scandale de dopage en Russie. Et que c'était donc Xi Jinping qui volontairement...
Le pays organisateur a le droit de lever cette interdiction.
Exactement.
Évidemment, Xi Jinping l'a fait.
Et qu'il a fait savoir de façon assez notable, invitation que s'est empressé d'accepter Vladimir Poutine.
Donc la photo de famille effectivement que vous évoquez effectivement est très intéressante. La Russie, on y viendra séparément parce que vraiment c'est important, mais sur cette photo, on voit aussi Ben Salman d'Arabie Saoudite, on voit Sisi l'Égyptien, on voit le Kazakhstan qui a failli les accueillir, ces jeux d'ailleurs.
Tout à fait.
Soit dit en passant, imaginez ce que ça aurait donné quand on sait ce qui s'est passé tout récemment. Il y aura le Pakistan, il y aura le Qatar, il y aura la Pologne, donc on a bien vu que l'Europe était dispersée. Il y a les pays qui ont suivi les États-Unis, certes, mais si on regarde cette photo de manière un petit peu trop... si on exagère un peu, je suis d'accord avec vous, mais enfin un peu trop littéral, est-ce qu'on se dit qu'il y a... toute une partie du monde contre l'Occident, en fait. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de vision ?
Je ne pense pas que ce soit une partie du monde contre l'Occident, puisque pour des régimes autoritaires, se rendre à Pékin, entre guillemets, ne leur coûte rien. Ça peut leur coûter un peu d'image en termes de politique intérieure, mais je ne suis pas sûr que le maréchal Sisi ou les dirigeants des pays de la péninsule arabique se posent réellement cette question. Par contre, le message de Pékin, il est important. Le message de Pékin, c'est de dire les Occidentaux, comme le disait précédemment l'invité, les Occidentaux sont minoritaires. Les États-Unis ont été incapables de convaincre l'ensemble de ces pays de boycotter officiellement. Et ce que dira Pékin, ce n'est pas tant que les Occidentaux ne sont pas là. C'est que seuls certains Occidentaux ont déclaré un boycott officiel, que les autres ne sont pas là parce que la situation sanitaire n'est pas bonne en Europe. C'est l'excuse un peu facile qui arrange tout le monde. Et les Chinois vont mettre en avant justement le fait que ce n'est pas une partie du monde contre l'Occident, c'est que l'Occident est en réalité isolé désormais.
Et encore une fois, Carole Gomez, de toute façon, on n'a pas besoin d'eux, en fait. J'ai l'impression, en creux, de lire ça aussi. De toute façon, s'ils ne sont pas là, on s'en fiche, on n'a pas besoin de ces gens-là.
Tout à fait. Et il y a un autre élément qui me semble aussi important de souligner, c'est que... il y aura aussi un autre invité de marque qui est Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, qui aussi participe à cette légitimation et participe à ce récit de la Chine sur ce sujet. Et vous avez complètement raison en disant que il y a aussi un côté, il n'y a plus rien à prouver. Il s'agit là d'une démonstration de force,
c'est fait,
et ça ne fait que confirmer ce qui a déjà été réalisé par le passé. Et donc, ce qui pour le coup va être vraiment intéressant de suivre, c'est comment est-ce que aussi il va y avoir ce traitement de ce boycott diplomatique. Très rapidement, après l'annonce des États-Unis en décembre 2021, la Chine avait promis, menacé de représailles un certain nombre d'États qui suivraient la logique des États-Unis en expliquant qu'ils, je cite, en paieraient le prix. Ce qui était aussi une menace suffisamment vague mais suffisamment précise pour aussi ralentir cet élément-là. Et là, l'objectif, à mon sens, cette photo de famille, elle doit être regardée pour ce qu'elle est, mais aussi en creux, de voir quelles sont... à quel point les États-Unis, au final, sont parfaitement isolés sur ce sujet.
Et alors, sur la photo de famille, on imagine bien Vladimir Poutine juste à côté de Xi Jinping. En tout cas, je pense que c'est comme ça que les choses vont se produire. Jusqu'à quel point on peut se dire, Antoine Bondaz, qu'il est en train de se nouer quelque chose, que ces jeux sont précisément le lieu où il faudra faire savoir au monde qu'il se noue quelque chose de différent, de neuf pour la suite, jusqu'à quel point même, y compris le conflit ukrainien, est en train de s'inviter aussi à l'intérieur de ces JO?
Eh bien, ça tombe bien, puisque en parallèle de cette cérémonie d'ouverture, il devrait surtout y avoir une rencontre bilatérale entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. Et normalement, si les sources sont correctes, l'annonce d'une nouvelle déclaration sino-russe. Il y en a eu plusieurs depuis la fin
Donc on remet les compteurs
90.
À zéro, une nouvelle histoire s'écrit entre ces
C'est pas une nouvelle histoire, c'est un niveau supplémentaire dans la coordination et la coopération sino-russe. On a une multitude de déclarations depuis la fin des années 90, une très importante notamment en 2017 sur les équilibres stratégiques. Et là, on en attend une, justement, en fin de semaine. Est-ce que ce sera vendredi, est-ce que ce sera samedi? Et la vraie question qui va se poser, c'est quelle est la place de la Chine dans la politique étrangère de la Russie, surtout? Et est-ce que la Chine, de façon beaucoup plus ostensible qu'auparavant, soutient, par exemple, les revendications russes en Europe, ou en tout cas les demandes de garantie de sécurité que formule la Russie en Europe? Ça, ce sera un point fondamental pour la question de l'Ukraine, pour la question de Taïwan, et on en saura enfin un peu plus sur la question qu'on se pose depuis déjà de nombreux mois, quel est le niveau de coordination, qu'elle soit politique ou militaire, entre les deux pays.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de trêve olympique, en fait. D'habitude, on joue à ça. Là, il n'y a pas de trêve olympique. Il y a même une... Est-ce qu'on a autant déjà utilisé politiquement? Parce que le sport et la politique soient mêlés les uns les autres, vous êtes tous les deux très bien placés pour savoir que, évidemment, c'est le cas à chaque fois. Mais là, pour le coup, on sent une utilisation qui va même au-delà de ce qu'on a pu avoir précédemment. Il y a pas de trêve.
L'utilisation, elle est claire. On se rappelle, évidemment, il y a 4 ans, dans la péninsule coréenne, les JO de Pyeongchang, le fait de faire venir la sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, à la cérémonie d'ouverture. Donc évidemment, les jeux sont toujours politiques. Là, la Chine, évidemment, elle veut mettre en avant la supériorité de son modèle. Elle veut mettre en avant le déclin des Occidentaux. Et elle les politise, évidemment, pour faire, entre guillemets, vibrer la fibre nationaliste, puisque, par exemple, celui qui tient aujourd'hui, qui va porter la flamme olympique, n'est pas du tout un athlète, c'est un militaire, le commandant des forces qui, à l'été 2020, se sont battus avec les troupes indiennes dans l'Himalaya. Il y avait eu à l'époque 4 morts officiellement côté chinois, beaucoup plus côté indien. Et il y a donc une politisation évidente des jeux, comme peut-être il y en a rarement eu ces dernières dizaines d'années.
Même si j'aurais tendance à... Effectivement, indéniablement, ces jeux sont évidemment politiques. Même s'il faut aussi remettre dans un contexte de 2008 où les jeux avaient été éminemment politiques et surtout sur des jeux d'été qui sont toujours bien plus populaires, bien plus regardés, bien plus l'objet d'un certain nombre d'éléments. Là, on parle de Jeux olympiques et paralympiques d'hiver qui vont réunir 91 comités nationaux olympiques plus l'équipe de Russie, avec au final une popularité qui est sans doute moindre. Donc la caisse de résonance me semble être en tout cas, peut-être pas autant aussi importante, mais comparable en tout cas à celle de Pékin 2008.
Mais d'ailleurs, puisque vous en parlez, Carole Gomez, en effet, le ski, c'est pas tellement le sport des Chinois, en fait, pour dire les choses clairement. Il pouvait y avoir une bataille de médailles au JO d'été et montrer jusqu'à quel point les Chinois sont capables d'en remporter face aux autres. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de médaille chinoise?
Alors là, je pense que, sans vouloir faire des pronostics, par ailleurs, je suis très mauvais sur ça, il va y avoir clairement une performance tout à fait moyenne de la part de la Chine. En revanche, on peut aussi penser qu'il va y avoir, que depuis un certain nombre d'années, et ça, il y a un certain nombre de témoignages qui le démontrent, il y a eu un vrai investissement majeur de la Chine sur les éléments sportifs. Au début, en fin des années 90, il y avait une seule grande station importante de ski sur le territoire chinois. Aujourd'hui, il y en a plus de 500.
Ouais. Donc c'est pour l'après, en fait. C'est donc ça, l'idée.
Oui, et puis c'est vraiment un processus qui est en cours et ça participe aussi au fait de dire que cette classe moyenne chinoise peut aussi faire comme les classes moyennes d'un certain nombre de pays et aller au sport d'hiver pendant l'hiver, à condition évidemment qu'il y ait de la neige.
Vous savez la question que je me pose, Antoine Bondaz, c'est marrant parce que c'est une question qu'on a beaucoup entendue en parlant de Chine et de JO dans les journaux, les émissions, etc. C'est quoi le soft power de la Chine désormais et même au-delà? Est-ce que la Chine a désormais besoin d'un soft power? Le sport en était un autrefois, l'est-il toujours?
Je ne pense pas que la Chine fasse preuve d'un réel soft power aujourd'hui. On parle plutôt de la coercition chinoise aujourd'hui que de la séduction chinoise. Mais je pense que la réponse, elle est donnée par l'ambassadeur de Chine en France, qui dit lui-même que
votre
son
ami.
Travail ne doit pas être jugé par ce que pensent les étrangers, mais par ce que pensent les Chinois. Et en réalité, on voit aujourd'hui une Chine qui s'adresse à un seul public, le public chinois. La Chine ne s'adresse pas au monde, elle s'adresse aux Chinois, en disant quelque chose de simple, le régime, nous sommes plus efficaces, nous sommes donc plus légitimes que n'importe quelle initiative et alternative à l'étranger. Et l'objectif, il est toujours le même, c'est renforcer la légitimité du parti, assurer cette fameuse sécurité politique qui aujourd'hui reste la priorité du régime.
Et c'est intéressant, et ça c'est plutôt pour vous, Carole Gomez, parce qu'on a l'impression que certains autres pays, je pense au Qatar notamment, sur la Coupe du Monde, sont au même niveau, mais un peu au-dessous, c'est-à-dire que eux, pour le coup, eux sont encore dans l'opération de séduction et ont toujours besoin de nous expliquer pourquoi c'est important de venir à eux.
Oui, tout à fait, mais là encore, sur la question chinoise, je pense qu'on ne peut pas forcément comparer les différentes diplomaties sportives qui sont mises en œuvre, parce que tout simplement, les pays qui le développent ne sont pas du tout les mêmes. La Chine, c'est un nouvel élément qui se rajoute à toute une panoplie d'outils, de puissances qui sont extrêmement présentes. Même si, un tout petit élément sur la question du soft power, j'aurais tendance quand même à considérer que la Chine y apporte une importance notable, notamment au regard de ce qui est fait au niveau du football. C'est un sport qui était très peu pratiqué il y a de ça une trentaine d'années, et il y a un investissement majeur qui a été fait depuis un certain nombre d'années avec un plan en trois parties: 2020, 2030, 2050. L'objectif étant d'accueillir la Coupe du Monde et potentiellement de la remporter un jour, ce qui aujourd'hui fait sourire un certain nombre de supporters et supportrices, mais qui en réalité, au regard des moyens déployés, ne me semble pas si inatteignable que ça.
Ce qui était une demande express de Xi Jinping, et malheureusement la Chine, il y a quelques jours, s'est fait humilier, comme le titraient les journaux vietnamiens, puisque l'équipe nationale a perdu 3-1 contre le Vietnam juste avant le nouvel an lunaire. Et donc, de nombreux pays dans la région ont mis en avant justement le fait que même si la Chine avait beaucoup d'ambition en matière sportive, les résultats étaient parfois limités, et notamment dans le football.
Une dernière chose, je me demandais si ces JO marquaient vraiment, alors j'ai l'impression qu'on le dit un peu à chaque fois, mais une sorte d'avant et après quand même, parce qu'il se passe des choses là, y compris politiquement, qui sont, on l'a dit, très inédites. On sait bien que les villes ne veulent plus accueillir les JO été comme hiver aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop cher et que les populations en général disent non. Donc c'est pour ça que ces pays-là se précipitent. Mais quand même, Carole Gomez, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura encore des JO de ce type-là, aussi politisés, aussi terriblement politisés, j'ai envie de dire?
Pour le coup, il y aura toujours des jeux qui vont être politisés. En revanche, il est intéressant de noter que le CIO a compris qu'il y avait là un vrai risque pour lui de continuer à attribuer ces événements sportifs dans ces pays. Vous aviez tout à fait raison de signaler que ces jeux, à l'origine, étaient censés potentiellement être organisés à Almaty. Et là encore, vous avez eu raison de signaler qu'en réalité, il y avait 6 candidatures au début, 4 candidatures européennes, Stockholm, Oslo, Cracovie et Lviv. Et les unes après les autres, ce sont
Jeux jeux d'été de 2024,
exactement,
qui sont les nôtres.
Hein. Exactement. Et donc aujourd'hui, le CIO a vraiment compris qu'il y avait là quelque chose à faire, parce que tout simplement, s'il n'y a plus de Jeux Olympiques et Paralympiques, ou si ça n'est que dans des pays qui sont fortement contestés, qu'ils sont organisés, vous tuez la poule aux œufs d'or. Et donc c'est aussi le modèle économique même de ces Jeux qui arrive à sa fin. Et on voit qu'il y a eu un changement à deux niveaux. Un, à partir de 2014, où il y a eu un nouvel agenda qui a été mis en place, l'agenda 2020, et qui essaye de vraiment faire en sorte que ces Jeux soient organisé dans des pays avec un vrai projet et avec un certain nombre de respect. Et par ailleurs, il a été intéressant de noter l'attribution des Jeux de 2032 qui ont été un petit peu accélérés et qui ont atterri à Brisbane. Brisbane a été désigné, alors même que Doha c'était avait candidaté et voulait justement se tailler un peu la part du lion sur ce sujet.
Est-ce qu'on peut imaginer à un moment quand même que, là on entend bien, on demande aux sportifs, les pauvres, hein, qui mettent 4 ans pour se préparer et qui n'y sont pour rien. Donc on met une pression sur les sportifs. Il y a évidemment une immense pression sur les sponsors aussi. Donc est-ce que le fait que le CIO de toute façon finisse par redéfinir tout ça ne peut pas venir et même ne doit pas venir des sponsors, des athlètes aussi de leur côté?
Alors il y a trois choses qui peuvent être intéressantes. La première, c'est que le CIO vraiment sent que les choses sont en train de changer. Il va y avoir une transition. Qu'elle soit forcée ou d'elle-même, il va y en avoir une. Deuxième élément, effectivement, les sponsors, on les a trop souvent oubliés. Et notamment sur un autre exemple d'événement sportif, c'était le championnat du monde de hockey sur glace au début de l'année dernière. Le sponsor Skoda a fait pression sur l'organisateur pour qu'il retire l'organisation, la co-organisation au Bélarus. Et donc, finalement, ils ont obtenu gain de cause. Et on voit donc que les sponsors, s'ils veulent agir, ont une vraie carte à jouer.
Et les sponsors, c'est l'argent hein, de ces JO. Donc c'est évidemment extrêmement important. Carole Gomez, Antoine Bondaz, merci beaucoup. Merci vraiment de votre passage chez nous.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Pologne, c'est le bruit du monde. Un an après l'interdiction totale de l'avortement, les conséquences, elles sont évidemment palpables, à la fois pour les femmes et aussi pour les médecins, vous l'entendrez. La troupe habituelle qui va jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie.
La police londonienne épinglée dans un rapport pour des SMS racistes, misogynes et violents.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier, bonsoir.
Bonsoir, je vous emmène dans une immense ruche, l'hôpital numéro 6 de Shanghai, pour un portrait de la Chine contemporaine, à travers le parcours de 5 patients venus de tout le pays.
On n'en sort pas ce soir de la Chine. Le monde d'après, Jean-Marc Faure, bonsoir.
Bonsoir à tous. On va regarder l'attitude de Paris, Londres et Berlin face à l'Ukraine. 3 attitudes différentes, reflets de 3 enjeux de politique intérieure spécifiques à chaque fois.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue avec Ricky Lee Jones. Chuck is in love, c'est d'un jour dans le monde et sur France Inter. Le bruit du monde, ce soir, est en Pologne, où cela fait un an. C'était le 27 janvier 2021. Un an que l'avortement est quasiment intégralement interdit. Même en cas de grave malformation du fœtus. Or, cela représentait la majorité des avortements en Pologne, puisque la loi d'avant était de toute façon très restrictive. Désormais, et c'est ce que disent les ONG, l'interdiction totale a créé un climat de peur chez les médecins. La vie et la santé des mères polonaises est en péril. Le reste, c'est Sarah Bakaloglou qui raconte.
Dans une petite rue de Varsovie, derrière une porte discrète, se trouvent les locaux de la Fédération des femmes et du planning familial. Ici, quotidiennement, l'ONG reçoit des appels à l'aide de femmes enceintes en détresse. Il y en a eu 15 000 depuis un an, soit trois fois plus qu'avant le durcissement de la loi sur l'avortement. Aujourd'hui, c'est Antonina Lewandowska qui se tient près du téléphone.
Cela ne change rien si le fœtus n'a pas de boîte crânienne, s'il ne survit de toute façon pas. Vous ne pouvez pas interrompre la grossesse légalement en Pologne. Et je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens quand, au bout du fil, une femme tente avec difficulté d'accepter le diagnostic d'un fœtus gravement mal formé. Et qu'en plus, son pays la condamne à la torture. Car c'est ce que c'est.
En Pologne, l'avortement reste possible seulement en cas de danger pour la vie et la santé de la femme et en cas de viol et d'inceste. À ces Polonaises qui souhaitent avorter, la militante recommande de se rendre dans une clinique à l'étranger ou bien de faire venir des pilules abortives, principalement des Pays-Bas. L'association Avortement sans frontières a aidé ainsi près de 33 000 Polonaises à avorter l'an dernier. Mais après le durcissement de la loi, une troisième alternative a été mise en place par l'équipe d'Antonina Lewandowska.
Ce que nous pouvons faire à Federa, et d'ailleurs c'est ce que nous faisons, c'est dire que obliger une femme enceinte à mener à terme sa grossesse en cas de malformation du fœtus est une lourde menace pour sa santé mentale. Or, une menace pour la santé et la vie de la femme reste un motif légal suffisant pour demander un avortement. En Pologne. Donc, nous avons un réseau de psychiatres vers qui nous dirigeons les femmes pour une évaluation. Nous n'avons jamais laissé une femme sans aide. Je suis désolée. Federa, à votre écoute.
À deux reprises, le téléphone va sonner. D'abord une femme enceinte cherchant le contact d'un psychiatre, puis une deuxième pour laquelle Antonina Lewandowska nous tend un bout de papier avec ses mots griffonnés. Elle a des pensées suicidaires, je dois vous laisser. Cette souffrance, la psychiatre Alexandra Krasowska l'a constatée auprès de ces Polonaises dont les grossesses se sont désirées. Rapidement après le durcissement de la loi, elle a vu arriver dans son cabinet de nombreuses femmes en détresse.
C'est la première fois que j'ai dû poser cette question. Qu'est-ce que cela vous fait de devoir continuer cette grossesse alors que vous savez que l'enfant va mourir? La plupart du temps, ces femmes sont presque incapables de parler parce qu'elles pleurent. Elles ne savent pas si elles pourront surmonter cette épreuve. Parfois, elles veulent se suicider. Parfois, elles souhaitent que leur vie s'arrête comme cela, en s'endormant et en ne se réveillant jamais.
Grâce au certificat des psychiatres attestant des risques d'une poursuite de la grossesse, les femmes peuvent demander un avortement à l'hôpital, mais encore faut-il que celui-ci accepte, car le durcissement et la méconnaissance de la loi a créé un effet paralysant chez les médecins craignant de pratiquer un avortement, même lorsque la loi l'autorise, parfois avec des conséquences dramatiques pour les mères. Des hôpitaux aussi soumis à la pression de l'influent institut Ordo Iuris, une organisation fondamentaliste catholique où nous avons rendez-vous. L'an dernier, elle a envoyé une lettre à tous les hôpitaux polonais pour donner son interprétation juridique de la loi. Nicodem Bernasiak.
Selon certains, les mères qui déclarent que poursuivre leur grossesse est cause de dépression peuvent demander un avortement pour ce motif. Mais c'est faux. Cette disposition de la loi est seulement pour les vraies et sérieuses menaces pour la vie et la santé de la femme, comme par exemple s'il y a un risque que les organes de la mère soient endommagés.
En décembre, l'hôpital de la ville de Białystok s'est servi de la lettre d'Ordo Iuris pour refuser un avortement à une femme, malgré les certificats de deux psychiatres et dont le fœtus n'avait pas de boîte crânienne. Finalement, la Polonaise a réussi à trouver un autre hôpital grâce à l'aide de l'ONG Federa. L'association a aidé près de 500 femmes à obtenir un avortement légalement en Pologne l'an dernier.
Sarah Bakaloglou, pour le reportage, merci Sarah, merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Et Sébastien, voici les rues de Londres où Scotland Yard est visé par un rapport au vitriol.
Oui, c'est un rapport de l'équivalent de la police des polices qui pointe du doigt la présence récurrente de paroles violentes, misogynes, xénophobes au sein de la police de la métropole de Londres, la Met Police. Tout est parti d'une enquête ouverte il y a 3 ans après qu'un policier ait une relation sexuelle avec une jeune femme saoule dans un commissariat. La police des polices a ensuite passé en revue des milliers de messages échangés sur WhatsApp entre policiers, notamment entre une quinzaine d'agents du centre-ville, où l'on découvre que la culture du viol et du harcèlement est banalisée, les insultes racistes monnaie courante. Exemple, je serais ravi de te violer, ou l'autre jour, j'ai tabassé un de ces rats de Somaliens. Sans compter les textos homophobes ou faisant référence à Auschwitz. Le maire de Londres s'est dit dégoûté. La Metropolitan Police profondément désolée. Ce rapport ne va pas arranger la réputation de cette institution, déjà passablement abîmée par l'affaire Sarah Évrard, cette jeune femme violée et tuée l'an dernier par un ancien policier. On entend là la chef de la police londonienne l'an dernier qui déjà à l'époque faisait son mea culpa. Les officiers de police sont là, dit-elle, pour protéger les gens, pour être dignes de confiance, courageux, compatissants. Cette affaire a érodé la confiance que le public est en droit d'avoir dans la police. Un an après ces propos, rien ne semble avoir changé.
Les Indiens d'Amérique, Sébastien, vont recevoir des centaines de millions de dollars de la part des laboratoires américains.
Un accord financier vient en effet d'être signé hier entre des centaines de tribus et l'industrie pharmaceutique américaine pour mettre fin aux poursuites judiciaires dans ce qu'on appelle la crise des opiacés, ces médicaments antidouleurs à base d'opium très addictifs comme le fentanyl, l'oxycontine, qui ont littéralement ravagé les États-Unis, 500 000 morts d'overdose en 20 ans, et parmi les communautés les plus touchées, les tribus amérindiennes, le plus fort taux de décès par overdose par habitant en 2015. On entend ici un reportage télé sur les tribus Cherokee. Ce sont les premières tribus indiennes à avoir intenté des procès au laboratoire. Les gouvernements tribaux ont en effet dû dépenser des sommes considérables pour faire face à ce fléau. Il a fallu soigner des malades, loger des familles détruites, recueillir des enfants en danger. Alors après des années de négociations, 4 laboratoires ont donc accepté de sortir le carnet de chèques en échange de l'arrêt des contentieux. 665 millions de dollars au total qui seront répartis entre toutes les tribus amérindiennes, 574 en tout, même celles qui n'ont pas porté plainte.
Et on termine avec la belle histoire d'une statue romaine rendue à la France un demi-siècle après avoir été volée.
Oui, c'est une statue du dieu Bacchus, le dieu du vin, lorsqu'il était enfant, 40 cm en bronze, datant du 1er siècle, découverte au 19e siècle dans le village gallo-romain de Bourgogne, une statue considérée dans les années 30 comme l'un des 50 plus beaux trésors français, volée en 1973 au musée du pays châtillonnais et redécouverte par l'Indiana Jones du monde de l'art, l'expert et détective néerlandais Arthur Brandt. Voilà, c'est l'Indiana Jones hollandais lui-même que l'on entend là, décrivant l'une des plus belles antiquités romaines jamais retrouvées en France, une statue unique, tellement belle, dit-il. Tout le monde pensait qu'elle était perdue à jamais, éventuellement détruite par les voleurs ou fondue, mais la voici donc 50 ans après. Cette statue a été volée dans les années 70, puis aucune trace pendant un demi-siècle, il y a 2 ans. Elle refait surface par hasard en Autriche, un amateur d'art l'achète légalement, mais il a des doutes sur son origine, il contacte alors Arthur Brandt, très connu dans le milieu pour avoir déjà retrouvé des Picasso égarés. L'expert se met en chasse et découvre un rapport de police de 1973 faisant état du vol. Bingo, la statue va bientôt faire son retour au musée de Châtillon-sur-Seine et Arthur Brandt y aura droit à une entrée gratuite à vie.
Et une petite une bonne bouteille quand même à chaque fois, on espère pour lui. Sébastien, merci beaucoup. Bien sûr, on se retrouve demain. Vous partez avec les Limignanas et Laurent Garnier, figurez-vous. Et puisque les boîtes ne sont pas encore ouvertes à nouveau, eh bien montez le son. Qu'est-ce qu'alors ?
Oye, oye, perro guarro. Los cojones, me oyes. Oye, tú, ven a mí. Saúl la mirada. Había estado bailando 2 o 3 horas sin parar.
gimnasia porque ella adora el baile.
Je confirme totalement qu'on est limite en boîte de nuit ici autour de la table du 18-20. Allez, c'est pas le tout, mais au ciné tout le monde.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO, Corinne Pellissier qui nous ramène en Chine et nous amène à l'hôpital aussi avec le portrait de 5 familles. C'est un documentaire qui s'appelle H6, réalisé dans le plus grand hôpital de Shanghai, c'était avant le Covid. Un film de la cinéaste et plasticienne Ye Ye, réalisé sans commentaires, sans voix off et parfois ça donne froid dans le dos, dites-vous.
Voilà, c'est un hôpital gigantesque, il ne cesse depuis des mois de s'agrandir. 4 millions de personnes déjà avant le Covid qui venaient là tous les ans, souvent de très loin, pour recevoir des soins ou consulter des spécialistes. Des listes d'attente très longues, des urgences elles aussi saturées et des soins excessivement coûteux que les familles sont prêtes pourtant à assumer, quitte à vendre leur terre ou hypothéquer leur maison. Question de culture, nous dit Ye Ye, la réalisatrice du film qui avait à cœur de travailler sur les valeurs et sur l'humain.
C'est pas vraiment parler d'un pays à travers le système de santé. C'est plus pour voir leur manière d'adaptation de difficultés, comment retrouver l'équilibre. J'ai eu un méningite et j'aimais bien enquêter de ça. J'étais toujours très joyeux et tout ça, un peu comme dans le film. Et c'est pour ça que je questionne beaucoup sur la recherche de valeur. L'hôpital, c'est un microcosme de la société aujourd'hui. C'est un témoignage. On voit tout de suite à travers ces images, on ne peut pas tricher. J'ai dit, je vais faire un portrait collectif des Chinois un peu contemporains. On parle beaucoup de l'histoire d'argent. Il y a des questions de santé, il y a des questions de famille, il y a des questions aussi de psychologie. Il n'y a pas de problème d'accès. Toutes les familles, ils sont endorées, ils sont prêts à aider. Au fond, on parlait vraiment de questions de valeur. Comment on fait le choix? Quel est le plus important dans notre vie?
Alors Corinne, c'est un hôpital qui n'a pas été choisi au hasard. Le H6, il est notamment connu en Chine pour avoir abrité pendant plusieurs saisons une télé-réalité au service des urgences.
Exactement, un programme auquel la cinéaste Ye Ye a d'ailleurs participé. Des centaines de caméras installées partout dans l'hôpital qui lui ont permis d'acquérir une très bonne connaissance de l'environnement, du système de soins. Trouver aussi les 5 personnes que l'on va suivre pendant tout le film. Ce sont de vrais patients. Un homme qui s'est brisé le dos en tombant, une rescapée d'un accident de la route, des jeunes, des vieux, des gens venus de la campagne, des gens des villes. Aucun d'eux n'a été dirigé. Pourtant, tous dessinent un morceau de la Chine d'aujourd'hui, quelque part entre modernité et tradition. On va les suivre dans leur quotidien, obligés de faire face à des dilemmes financiers, moraux. C'est souvent glaçant. Comment payer ses frais quand on n'a rien, par exemple? Comment évaluer le coût de la survie d'un malade? À l'heure où l'hôpital en France est sous tension, eh bien ce film en forme de miroir est absolument passionnant.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. Signé donc de la réalisatrice Ye Ye, pardonnez-moi. Et ça s'appelle
H6.
H6, eh bien tout simplement. Merci beaucoup, Corinne Pellissier.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Avec le micro, c'est mieux. Voilà, c'est bien. Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Les menaces russes autour de l'Ukraine continuent d'occuper le centre de la scène internationale entre renforts de troupes et nouvelles négociations. Et sur le sujet, les 3 principales capitales européennes, Paris, Londres et Berlin, ont chacune leur tonalité. Et pour vous, ces différences sont directement liées, dans les 3 cas, à des agendas politiques de politique intérieure. Et c'est votre monde d'après.
J'ose pas dire que c'est un remake de Le Bon, la Brute et le Truand. Ça serait sujet à interprétation. Donc on va faire sobre voilà, on va rebaptiser ça plutôt sobrement le diplomate, le va-t-en-guerre et l'abonné absent. Paris, Londres, Berlin. Chacune des 3 postures est bien sûr le reflet d'une vision géopolitique, mais elle est surtout dictée par des préoccupations internes domestiques. Commençons par Paris. Emmanuel Macron se pose en médiateur dans cette crise. Il multiplie les initiatives diplomatiques, le format dit Normandie, un appel au président Poutine et Zelensky, un déplacement envisagé à Moscou, un projet de réunion avec l'Allemagne et la Pologne. Le président fait feu de tout bois et se veut l'artisan d'une désescalade. Mais quel est le contexte intérieur français? Je vous fais pas un dessin. Emmanuel Macron est en campagne, c'est un secret de Polichinelle, même si ce n'est pas officiel. Or, ces derniers temps, les revers diplomatiques se sont multipliés pour Paris. Le contrat rompu des sous-marins avec l'Australie, puis la mauvaise limonade au Sahel avec un gouvernement malien qui veut renvoyer la France chez elle. Tout ça plombe les ambitions françaises de promouvoir l'autonomie stratégique de l'Europe. L'Ukraine, c'est l'occasion de redorer le blason. Dans une posture gaullienne et gaulliste, ni Washington, ni Moscou, la France, puissance d'équilibre. Le pari est risqué, mais il peut rapporter gros. Les électeurs sont sensibles à la stature internationale des candidats. C'est un critère de choix pour la présidentielle. Une enquête récente de l'Institut Louis Harris vient de le confirmer.
Ensuite, il y a donc Boris Johnson, et lui, c'est l'autre bout du curseur, c'est le va-t-en-guerre.
Ah oui, c'est tout juste si le Premier ministre britannique n'a pas déjà endossé le treillis de combat. Hein. Et cette posture de dramatisation guerrière partagée avec Washington irrite à Paris et à Berlin. Boris Johnson était à Kiev ce matin, il promet une aide financière et se dit prêt à doubler le contingent militaire britannique dans l'Est de l'Europe. Aujourd'hui, il y a à peu près 1 000 000 d'hommes en Pologne et en Estonie. Mais là encore, même question, quel est le contexte intérieur britannique? Ça n'a échappé à personne. Boris Johnson est englué dans le scandale des réunions alcoolisées en plein confinement. Il est plus très loin de prendre la porte sous la menace de la rébellion de son propre parti. Donc il fait quoi avec l'Ukraine? Il fait diversion. Occasion rêvée là aussi, changer de sujet et au passage espérer se bâtir une image à la Churchill de sauveur de la liberté. Quitte à en passer par une guerre, il ne serait pas le premier dirigeant britannique à faire ça. On pense à Thatcher avec les Malouines ou à Blair avec l'Irak. Et puis comme les contentieux sont innombrables et anciens entre le Royaume-Uni et la Russie, Moscou a quand même le profil idéal pour être désigné comme l'ennemi.
Donc Jean-Marc, il reste le troisième, l'allemand, Olaf Scholz, le silencieux.
Oui, après le diplomate Macron, le va-t-en-guerre Johnson, voici l'abonné absent Scholz. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux allemands, le mot dièse de la semaine, c'est « Wo ist Scholz ?». Mais où est donc passé Scholz? Porté disparu, ironisent de nombreux commentateurs. Alors c'est vrai que le nouveau chancelier allemand est d'un naturel discret. C'est vrai aussi qu'il délègue le dossier Ukraine à sa ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui travaille avec le français Jean-Yves Le Drian. Mais globalement, Scholz, on le sent embarrassé. Il en dit le moins possible sur le sujet. Le contraste était flagrant avec Emmanuel Macron lors du point presse commun des deux hommes la semaine dernière. Donc même question, quel est le contexte intérieur en Allemagne? Réponse, un accord de coalition compliqué à faire tenir avec 3 partenaires, sociaux-démocrates, verts et libéraux, dont les avis divergent sur l'attitude vis-à-vis de Moscou et plus encore sur la patate chaude de la dépendance allemande au gaz russe. 55% du gaz importé en Allemagne provient de Russie. Et a fortiori avec le nouveau gazoduc Nord Stream 2, dont l'artisan a été l'ancien chancelier Gerhard Schröder. Sous la pression des Verts et de Washington, Scholz a fini par concéder qu'il était prêt à suspendre Nord Stream 2 en cas d'attaque russe en Ukraine. Mais alors c'était vraiment du bout des lèvres, hein. Il marche sur des œufs. Donc on se résume, pour des raisons en grande partie de politique intérieure à chaque fois, Londres, Paris et Berlin regardent chacune le sujet Ukraine de façon différente. Vladimir Poutine le sait très bien, il a tout loisir pour en jouer.
Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde avec Le Monde d'après. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h présenté par Hélène Philly. Le téléphone sonne est à suivre. Bonne soirée avec nous sur France Inter.